qui sont censés s'occuper de ces démarches-là. Mais bref. Et après, quand on a déménagé ici et qu'on a voulu faire des démarches par rapport à la maison, pour commencer tout ce qui était impôts locaux, tout ça, machin, pour ouvrir un truc EDF, pour ouvrir le truc de chauffage, tout ça, il fallait qu'on soit inscrit dans la mairie de la ville où on habitait pour avoir le droit ensuite d'ouvrir les contrats chez le gaz, bon, là, pas le gaz, mais l'électricité, l'eau et tout ça. Donc obligatoirement, on s'est inscrit. Quand moi, j'ai refait mon permis de conduire, parce que habitant, résident en Hollande, je n'ai pas le droit de conduire avec un permis étranger. Donc j'ai dû donner mon permis français et en échange, j'ai eu un permis néerlandais. J'ai pas le droit de conduire avec une voiture immatriculée à l'étranger. Si je suis résidente ici, j'ai pas le droit de conduire avec une voiture immatriculée à l'étranger. Je dois conduire avec une voiture immatriculée aux Pays-Bas parce qu'elle doit être taxée en Hollande. C'est comme ça, c'est uniquement pour une histoire de... Mais aussi pour pouvoir contrôler, encore une fois, c'est vraiment... Donc, quand t'as déjà toutes ces contraintes-là, je te parle des soins médicaux, je te parle de la mairie, je te parle de n'importe quel papier que tu dois faire, ta voiture, tes machins, tout ça.
Ça peut te dissuader.
Ça devient compliqué pour un étranger de passer à travers les mailles. C'est tout. Et à partir du moment où tu commences, je dirais, tu arrives, tu t'installes dans une ville, si tu veux avoir l'accès au logement, n'importe quel, que ce soit de la location ou l'achat d'une maison, tu dois avoir le numéro de service civique. Pour avoir ce numéro, tu dois être inscrit dans une ville. Donc pour t'inscrire dans la ville, tu dois te déclarer dans une ville. Si tu es étranger, moi, on m'a demandé à quel titre je venais m'installer ici. Je venais parce que je venais avec mon partenaire et que j'avais un travail. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit je venais vivre avec mon partenaire, soit c'est parce que j'avais un travail ici. Le plus rapide, le plus simple, c'était de dire que j'avais un travail ici et que je venais pour mon travail. Ça a été très rapide, comme ça, je l'avais en 3 semaines. Sinon, j'avais plusieurs mois à attendre. Il fallait vérifier qu'effectivement, je vivais bien avec mon conjoint. Ça rigolait pas. Donc, si t'es étranger, tu passes pas à travailler. Les mailles du filet, c'est pas possible. T'as pas accès au travail, t'as pas accès au logement, t'as pas accès aux soins, t'as accès à rien. Si t'es illégal aux Pays-Bas, tu n'as accès à rien. En France, si t'es illégal, t'as accès à tout. T'as même accès à la sécu. Même un illégal, il a accès à la sécu.
Mais moi, je trouve pas ça normal.
Et il a accès au logement. Parce qu'on te demande pas, on te demande pas ton numéro de sécu, on te demande pas, on te demande rien, à part des fiches de paye ou quoi que ce soit. Mais pour un logement, en plus, t'as des camps, des machins où tu peux squatter. Enfin, ici aussi, ça existe, les squats. Mais ici, les squats, c'est squatté par des crackers. C'est-à-dire, c'est des gens qui revendiquent que les logements vides peuvent servir. Donc, comme ces gens n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça, ils s'y installent. Et après, ils peuvent plus être foutus dehors. Mais c'est politique. Plus que... C'est pas des pauvres ou des machins. C'est politique. Mais bon, ici, c'est très compliqué. Le système est tellement bien verrouillé que c'est très compliqué. Il y en a, hein. Bien sûr qu'il y en a des illégaux. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Si j'ai le choix, moi, de rentrer illégalement dans un pays en Europe, c'est la France. C'est facile de tout, et c'est là où il y a du boulot, je dirais. Plus qu'en Espagne, plus qu'en Italie. Parce que l'Italie ou l'Espagne, c'est pas mieux que la France au niveau du système.
Non, c'est pire, bah, surtout en ce moment.
Mais bah, la Grèce, c'est pareil.
C'est encore pire. Ils
sont tirés une balle dans le pied. Hein. Mais la France, il y a encore du taf. Je veux dire, pour celui qui veut bosser, il y a
noir,
du boulot. Hein. Mais même pas au noir. Je veux dire, attends, des offres, il y en a plein. Tu acceptes n'importe quel boulot à la NPE et c'est bon. Ouvrier.
Oui, mais peut-être parce que les étrangers, eux, ils n'ont pas le droit au chômage, je sais pas trop. Qu'un Français, il a le droit de refuser s'il trouve que...
En France, étranger ou français, c'est si t'as travaillé, déclaré pendant je sais pas combien de mois, t'as le droit au chômage. Pendant au moins un an. Ici, je te disais hier, moi quand j'ai arrêté de bosser au mois de juillet... Je ne l'ai pas fait parce que je me dis je préfère regarder si un jour j'en ai vraiment besoin. Pour l'instant, j'ai un peu de sous. J'avais droit. En fait, tu touches par année complète travaillée, c'est-à-dire par 12 mois travaillés, tu as droit à un mois de chômage et le chômage, c'est 70% de ton salaire. J'avais droit à 3 mois. C'est tout.
Oui, qu'en France, c'est limité.
Et après, je peux faire une demande pour un espèce de RSA. Mais qui est de 200, 300 euros. C'est rien. Et là, oui, là, il y a un minimum pour vivre. Mais je n'aurais pas pu vivre avec ça, de toute façon, je veux dire, ma maison, c'est déjà un crédit de 1200 euros par mois. Donc, c'est tout, je veux dire. Mais sinon, le chômage, c'est 3 mois. J'y avais droit à 3 mois. Quelqu'un qui aurait bossé depuis 10 ans, il a beau être hollandais. C'est pas parce que je suis étrangère, ça n'a rien à voir. Alors, c'est sûr qu'étant étrangère, ça ne facilite pas les choses, puisque ça fait pas longtemps que j'y suis. Mais étant hollandais, il a travaillé 8 ans en France. Donc lui, c'est pareil. Avant de quitter les Pays-Bas, il a travaillé pendant 2 ans. Lui, il a droit à 5 mois. C'est comme ça. Il n'y a pas assez d'argent, de toute façon. On nous bombe de tous les côtés. Ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. on a moins d'impôts sur le revenu, on est moins taxé sur le revenu qu'en France. Et on est moins, déjà on est moins taxé, et en plus de ça, comme c'est prélevé à la source, quand tu négocies ton salaire, t'en tiens compte. Donc automatiquement, tu vas demander un salaire plus élevé. En France, on t'annonce 4000 euros brut.
Tu gagnes.
Dans ta tête, tu fais vite le calcul et tu dis, oh, bah, ça fait 3005, 3006, parce que c'est 20% de moins. Ça va. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce que quand tu auras payé tes impôts à la fin de l'année, je te parle de l'impôt sur le revenu seulement, il va te rester même pas 3000.
2000 maxi.
Non, un peu plus. Mais
bon, je sais pas, parce que...
C'est un salaire. Donc il va te rester un peu moins de 3000. Mais t'en as pas tenu compte de ça au moment où t'as négocié. Moi, quand je négocie, je me dis, je veux au moins net, je veux au moins ça, chaque mois. Je calcule pas dans ma tête qu'à la fin de l'année, je vais avoir à sortir un salaire en plus. Non, je m'en fous de ça. Je m'en occupe pas. Donc je sais combien je veux minimum net. Et donc je sais combien je veux brut, c'est tout, combien je dois demander brut. Mais en France, les gens pensent pas à leur impôt sur le revenu à la fin de l'année, au moment où ils négocient leur salaire. Et du coup, ils n'en tiennent pas compte. Et quand ça tombe, ça fait mal, parce que c'est un salaire. Et un salaire, ça fait 10%. C'est 10% de ton salaire.
Tu peux être mensualisé.
Mais même.
Les
gens n'en tiennent pas compte. Les gens ne négocient pas, c'est ça que je veux dire.
Négocier. Bien sûr que si.
Moi, je sais. Quand tu négocies ton salaire, c'est parce que dans ta tête, sur.
Enfin,
un salaire, tu le négocies.
Je veux tant brut.
Tu vas négocier ton salaire. Bah, toi, dans ton métier, ça sera peut-être pas le cas.
Mais même quand j'ai travaillé en restauration, j'ai jamais dit.
Parce que tu négocies pas à ton âge, mais moi, mon salaire, je le négocie. Son salaire, il l'a négocié.
Je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu mes parents dire qu'ils avaient négocié leur salaire.
Non, moi non plus.
Bah, normalement, si. Et en France, j'en connais plein qui négocient leur salaire. Je veux dire, ton salaire, tu le négocies. Tu dis, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux gagner. Moi, par exemple, on m'a demandé, c'est quoi votre indication de salaire? Combien vous gagnez? Alors, j'ai dit, ma question, c'est pas ce que je gagne, c'est ce que je veux gagner. En plus, j'ai rajouté, moi, 30% à ce que je voulais.
Moi, la seule fois où on m'a demandé, c'est cet été quand j'ai travaillé un week-end en animation pour la ville de ma... parce que c'était pas en tant que centre aéré, c'était vraiment pour la ville, un week-end avec des enfants. Là, ils m'ont demandé combien... Enfin, il m'a proposé ce que eux ils me donneraient normalement. Il m'a demandé si ça me convenait.
J'ai commencé à négocier mon salaire quand je suis arrivée sur le marché du travail. Mais pas quand j'étais étudiante et que je faisais des petits boulots à côté.
Ma mère, je crois qu'elle n'a jamais négocié.
Parce qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, ou elle l'a jamais fait.
Mes parents, ils sont leurs propres patrons, donc en même temps, ils ne peuvent pas trop négocier.
Nicolas, je ne le vois pas négocier avec son patron le salaire. Bon, lui, c'est encore un peu différent.
Mes deux premiers boulots, je n'ai pas négocié, c'était le même. Le salaire d'un géo, ça se négocie pas, c'est comme ça, si t'es pas content, tu vas bosser ailleurs. Après, on m'a proposé un salaire quand j'ai travaillé dans les bureaux, c'était un contrat d'un an, c'était un peu plus que ce que j'ai mis en tant que géo, donc je trouvais que c'était bien, j'étais content, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, c'était le SMIC. Et quand je suis arrivée à Disney, j'ai négocié. C'est-à-dire que j'ai simplement dit que moi, pour vivre, parce que je m'étais bien rendu compte que 1000 euros brut, c'était pas suffisant, que j'avais besoin d'au moins 1002. Et à ce moment-là, on m'a dit, bah, tu gagneras 1003 net, non, brut. Parce qu'il y a des primes de langue. Dans le département du travail, il y a quelque chose comme 100 euros brut par langue que tu maîtrises et que tu vas utiliser. Bon ben moi, il y avait deux langues en plus de ma langue maternelle, donc ça faisait 200 et on me donnait 1100. Donc c'était bon, j'étais OK. C'est ce qu'ils avaient prévu de me donner, mais en attendant, je savais combien je voulais minimum. Quand je suis arrivée ici, on m'a demandé combien tu veux gagner au minimum. J'ai dit, on va acheter une maison, il me faut un peu plus. Donc ici, quand j'ai demandé, j'ai dit voilà, ma condition pour venir bosser ici, sinon je préfère rester en France parce qu'on est bien où on n'est pas malheureux, mais c'est de gagner au moins 1005 brut. Parce que si je savais que comme c'était prévu à la source, il allait me rester que 1000 euros net. Parce que c'est 30% ici, au départ. Quand sur les salaires les plus bas, c'est 30% direct, puisqu'il y a l'impôt sur le revenu dedans. Donc il y a les 20% de taxes, de machin, de tout
ça.
Il
n'y a pas dedans.
Plus les 10% qui, normalement, tu payes en France à la fin. C'est pour ça que je te dis, quand je négocie mon salaire, j'en tenais compte. J'ai été obligée de taper un petit peu plus haut que ce que je gagnais à Disney pour gagner la même chose que ce que je gagnais à Disney. Donc j'ai commencé à négocier à ce moment-là. Et après, à chaque fois que j'ai changé de boulot, moi j'ai changé 4 fois ou 5 fois de boulot depuis que je suis ici, toutes les fois où j'ai changé de travail, toutes les fois, alors tu négocies, c'est-à-dire que c'est pas une discussion qui dure 3 heures. C'est qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui dit quelle est votre indication de salaire.
Mais
toujours.
Moi, j'ai jamais entendu ça en France. Ils disent ça sera tant et si t'es pas content, ils prennent ça.
Ça dépend des métiers.
Mais moi, je pense que c'est de plus en plus comme ça.
Il y a des métiers commerciaux où de toute façon tu négocies. Dans les métiers commerciaux, tu négocies ton bonus, tu négocies.
Je sais pas s'il peut négocier. Puisque lui, il a un salaire fixe et après, selon ce qu'il vend, il a...
Oui, mais demande à Nicolas s'il n'a pas des collègues ou dans sa branche, il ne pourrait pas négocier son salaire si demain il changeait.
Je vais demander aussi à mon nom, mais je pense pas. Enfin,
en France, les gens changent moins souvent de boulot, c'est tout. Mais autrement, moi, de toute façon, à chaque fois que j'ai changé de travail, ces trois dernières années, c'était toujours par une boîte de recrutement, des chasseurs de têtes. Donc eux, de toute façon, ils te demandent ce que tu gagnes, combien tu veux gagner. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont baser leur recherche. C'est là-dessus qu'ils vont se baser pour te trouver du travail. C'est sur le salaire que tu demandes et tes compétences.
Mais vous avez tous les jours de congé, les RTT, tout ça, vous avez ça?
Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas.
Mais t'es pas obligé d'en prendre, si t'en veux pas.
C'est-à-dire?
Si dans la société... T'es obligé de prendre tant de jours de RTT.
Ici, en général, en fait, déjà, chaque entreprise a plus ou moins ça. C'est pas l'État qui régit la... Bien sûr qu'il y a une loi du travail. Mais après, chaque entreprise a son propre règlement. Il y a des entreprises... Moi, j'ai bossé dans une boîte où, effectivement, il y avait des RTT. Ça veut dire que j'avais mes 25 jours de vacances, plus encore 10 jours, pratiquement. 12 jours sur l'année au total.
Mais tu pouvais choisir les prendre.
Mais je pouvais les prendre quand je voulais, c'était compté comme des jours de vacances.
C'est l'entreprise qui... Ça, c'est
j'avais vraiment... le droit de les prendre, par contre, une fois que je les avais cumulés. Autant les jours de vacances, tu commences directement avec le capital de 25 jours. Dès que tu commences à travailler, tu commences, pas comme en France où tu dois déjà bosser pendant un an. Là, tu commences avec ton capital de 25 jours, tu vas avoir les points quand tu veux. Mais les RTT, il fallait attendre de les avoir, d'avoir fait les mois de travail. Mmh. Parce que là, c'était juste parce que je me rappelle, je bossais 42 heures au lieu de 40. Parce qu'ici, tu bosses 40 heures aussi par semaine. C'est pas 35. Mmh. Fais le calcul, ce que ça représente pour un employeur, chaque mois de différence. Ça fait 20 heures. Sur un an, c'est énorme. C'est un employé pratiquement. Donc, c'est sûr qu'on est mieux payé aussi pour ça, parce qu'on bosse plus. Mais par exemple, là où je suis maintenant, non, il n'y a pas de RTT. J'ai 25 jours de vacances par an. Par contre, il y a un système chez Philips qui te permet d'avoir des jours en plus si tu les achètes. C'est un genre de congé sans solde que tu pourrais avoir, et on peut avoir jusqu'à 10 ou 15.
Je sais pas, je trouve que c'est compliqué.
Oui, mais quand tu seras dans le marché du travail, d'ailleurs, ça te paraît pas. Mais bon, toi, tu seras sur des métiers.
Je savais pas que.
Mais si, et ça, je suis désolée, c'est pas propre aux Pays-Bas, c'est juste parce qu'en France, il y a plein de gens qui n'osent pas le faire, ou parce que...
Mais... Ou alors les employeurs, ils font peur, enfin, je sais pas, mais moi, quand t'es au chômage et qu'on te propose un travail et que tu passes un entretien...
T'es déjà bien content de l'avoir, le boulot, c'est ça?
Ben, je sais pas...
Enfin, tu rends autant service qu'on te rend service.
Oui, mais pour moi, l'employeur, il va dire, voilà, tu gagnes tant. Moi, combien de fois ils m'ont dit en restauration, si t'es pas contente, en gros, on trouvera toujours quelqu'un.
Après, je suis d'accord avec toi. Il y a des postes où on te dit, c'est clair, le poste, il est à tel salaire. C'est fixe, c'est gravé dans la pierre. Très bien. Dans ces cas-là, si tu sais que tu veux pas gagner ça, c'est pas la peine de postuler.
Oui, mais
on est d'accord.
Je veux dire, si... quel métier aussi tu peux savoir. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'appelles, il y a des
métiers. Moi, dans mes métiers... C'est pareil, les postes commerciaux, en fonction de ton expérience, de tes diplômes, ça, des fois, il y a une marge de 1 000 euros de différence. Un employeur, une personne dans une entreprise ou une société, quand elle embauche quelqu'un, elle a un budget. D'accord ? Et en général, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va taper le plus bas possible. Pour gagner de l'argent. Elle reçoit un budget de son boss en disant, voilà, le budget pour embaucher cette personne, c'est le temps. Et dans le budget, il y a le salaire... Et il y a ce que va te coûter le recrutement de cette personne. C'est-à-dire soit contacter la NPE, soit passer des annonces, soit faire appel à des chasseurs de tête, soit tout ça. Ok ? Et ensuite, dans ton budget, il y a aussi ce que tu as sur l'année, l'autorisation de payer l'employé. Il y a beaucoup, beaucoup de postes. Alors bien sûr, les profs, tout ça, les fonctionnaires, c'est la même chose.
C'est
l'État.
C'est sûr.
Mais encore que là aussi...
Mais
tu as une marge. Moi, mon poste, c'était entre... tant et tant, si je me souviens bien, c'était entre 3 500 et 5 000. Oui. En fonction de l'expérience, si t'avais 10 ans d'expérience, tu en avais 5. Si t'avais un master ou si t'avais...
Bah, moi, je sais que mon père, ça fait 15 ans qu'il a une boîte.
Tu connais deux personnes. Moi, j'ai une copine qui bosse chez L'Oréal à Paris. Elle vient de changer de département chez L'Oréal. Elle a été envoyée en Indonésie. Elle a négocié son salaire, elle l'a doublé. Parce qu'elle a accepté de partir, mais à la condition qu'on double son salaire.
Mais alors pourquoi il y a plein de gens qui ont des grands diplômes, enfin plein de diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail?
Parce qu'en ce moment, les sociétés n'ont pas d'argent pour les payer. Mais ça, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas négocier. Parce qu'il y a des boîtes qui ont de l'argent. Et parce que ces petits couillons aussi qui ont des grands diplômes, ils ont envie de rester dans leur région, ils ne veulent pas quitter leur coin de la France, ou ils ne veulent même pas quitter la France. Moi, j'ai des amis qui maintenant bossent en Allemagne, parce qu'ils sont ingénieurs, ils ont fait des études d'ingénieurs. Et que, en Allemagne, ça paye mieux. Il y a du boulot. Donc tu peux négocier. C'est une question d'offre et de demande. S'il n'y a pas beaucoup d'offres, c'est sûr que tu te contentes de ce qu'on te donne. Tu es déjà content d'avoir quelque chose. Si l'offre est limitée